lieux de la réclusion, comme les Archives nationales, la Bibliothèque historique de la ville de Paris ou la Bibliothèque nationale, où Furet, d'ailleurs, c'est à noter, ne se contente pas, même dans les années 70, de centraliser la documentation éparse que des chercheurs travaillant à ses côtés lui apportent, mais il se frotte aussi directement à l'art du repérage des cotes et des dépouillements de première main, comme en témoignent, par exemple, les archives accomplies dans le cadre d'une enquête collective sur les cahiers de doléances que les historiens connaissent bien. Mais on pourrait ajouter aussi à ces lieux, bibliothèques, archives, des lieux de conférences universitaires ou publiques, mais aussi des cadres offerts par la vie de journaliste dans le milieu de France Observateur, puis du Nouvel Observateur. Alors, si l'on a coutume de faire observer, avec raison, je crois, le changement de style historiographique qui caractérise l'œuvre de Furet entre les années 60 et les années 90, on ne peut cependant manquer d'être frappé, lorsqu'on scrute de l'intérieur ces séminaires, la forte charpente intellectuelle qui les caractérise. À ce niveau, c'est bien la continuité qui l'emporte. Le thème porté sur l'établi du séminaire par Furet, ce dernier, une fois qu'il l'a porté, s'y tient avec fermeté et engage un travail de lecture et de documentation impressionnant. La forte cohérence de ces séminaires semble d'ailleurs même s'imposer à ses invités. Par exemple, dans un exposé du 28 avril 82, consacré à Jacob Nicolas Moreau, historiographe royal des dernières années de l'Ancien Régime, Keith Baker entame ainsi son propos en s'inscrivant dans la continuité des interventions précédentes. « Pour commencer, dit-il, je veux vous rappeler ce que M. Furet a dit il y a 2 semaines au sujet de Bossuet et de sa politique tirée des propres paroles de l'écriture simple. Ce qu'il a souligné, c'est le degré tout à fait remarquable auquel Bossuet se détourne des arguments historiques et juridiques. » Je voudrais maintenant en venir à un second point qui me rapproche des différents travaux bien connus ici, bien pratiqués par Philippe Artière et quelques autres, regroupés au nom, sous le terme d'anthropologie de l'écriture. Je crois que ce type d'analyse peut nous aider, nous aide efficacement aussi dans ce cas-là. Les papiers de travail de François Furet sont en effet saturés de signes et d'informations qui permettent d'accéder aux arcanes et aux cheminements, alors non pas les plus intimes, non pas les plus intimes, ces chaînons de la psyché, je crois, sont définitivement inaccessibles aux historiens, mais qui sont parfois cachés et à qui se contentent en tout cas de la découverte de l'œuvre. Ces informations, ces signes, peuvent, je crois, expliciter des passages, des transitions, des inspirations, des points de rebroussement ou des alertes. Ainsi est-il intéressant, non pas seulement de voir ce que Furet retient d'un ouvrage qu'il lit, grâce au résumé qu'il en fait et qui s'accorde en général avec le fil de ses préoccupations, mais aussi de relever comment il travaille ses notes, qu'il relit sans doute à plusieurs reprises après les avoir consignées, et qu'il, en quelque sorte, dirais-je, triture de soulignements, et plus rarement, d'ailleurs, de remarques en marge. On saisit ainsi comment la lecture d'un texte, document d'histoire ou article scientifique, prend son sens, cette lecture, dans le cadre d'une réflexion qui ne cesse de se déployer comme une pièce, en quelque sorte, s'installe dans un puzzle. Ainsi, en marge d'un article de Sarah Hanley Madden sur l'élite de justice, Furet note-t-il, Sarah Madden aide à comprendre pourquoi et comment les Français du XVIIIe siècle ne parviennent pas à penser leur histoire. La Révolution française fait, comme Louis XIV, l'impasse sur l'histoire. Il réinvente la France. Par ailleurs, des appréciations, des évaluations ou des synthèses partielles font état d'un travail en marche, d'un work in progress, laissant entrevoir les différentes étapes de l'enquête telles qu'elles s'organisent dans l'intimité du chercheur. Par exemple, il analyse dans le cahier de doléances de Saint-Séverin, lors de l'enquête collective sur les cahiers de doléances auxquels je faisais référence, ce cahier, dans ses termes, curieux cahier qui mélange les revendications avancées, droits de la nation, liberté individuelle, responsabilité des ministres, avec le maintien de l'autorité du roi. Sur une période de temps d'une bonne vingtaine d'années, des années 60 aux années 80, on pourra ainsi s'arrêter à l'évolution des technologies de travail qui apparentent encore davantage Furet à ce que j'oserais appeler un moine copiste, qu'elle ne le rende proche du chercheur contemporain, en mesure désormais de confier la copie des documents à l'action des machines. Dans le cas de Furet, son cas n'est sans doute pas exceptionnel d'ailleurs, la copie constitue une part majeure du travail, que ce soit des copies de chiffres, dans les années 60 et 70, avec des tableaux soignés, que ce soit la copie de textes, dans les années 80, encore que des textes, d'ailleurs, soient aussi copiés aux archives nationales, par exemple à l'occasion du travail sur les corporations parisiennes à la fin du XXe siècle, donc dans le premier Furet, si j'ose dire. Même à l'âge de la photocopie, cette technologie intermédiaire entre la copie manuscrite, je parle de l'âge de la photocopie, et la reproduction numérique, entre les deux, eh bien même à l'âge de la photocopie, Furet semble y échapper tout à fait. La photocopie, il la réserve en général aux articles de ses confrères, publiés dans les périodiques, les moins immédiatement accessibles, ou particulièrement les périodiques étrangers. Donc, tout se passe, lorsqu'on regarde ça de très près, presque on le ressent presque physiquement, je dirais, tout se passe comme si la compréhension du document historique, dans le cas de Furet, passait par son incorporation, par le truchement de sa copie, ce qui contribue peut-être à éclairer, je crois, le rôle séminal de certains textes comme clé de l'interprétation générale de l'Ancien Régime ou de la Révolution. Copier les textes, peut-être, facilite l'identification à leurs auteurs. Le travail de copie ou de collection n'exclut pas, cependant et en même temps, le travail d'analyse. Comme je l'ai déjà mentionné à propos de l'enquête sur les cahiers de doléances, copie des données sèches en quelque sorte, et par ailleurs, il intervient dans l'appréciation. Et donc, ces deux modalités ne sont pas à opposer, comme le font, disons, un certain nombre de personnes qui ont un regard un peu naïf sur le métier d'historien, séparant un travail passif de collection dans la documentation disponible à un autre travail dans un second temps qui serait celui de l'analyse. C'est bien les deux qui sont imbriqués dans le cas de Furet, mais qui passent fondamentalement, je le répète, par l'écriture manuscrite. De même que Furet, d'ailleurs, n'écoute pas passivement, on ferait un parallèle évident ici, n'écoute pas passivement les invités de ses propres séminaires, mais transcrit les exposés tout en y réagissant. Je ne voudrais pas être cruel, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait évaluer l'intérêt différencié qu'il porte au séminaire dans ses archives, en fonction des intervenants de ces séminaires. Tous ne sont pas traités à égalité d'intérêt. Mais ce n'est pas seulement cela qu'il note, il commente aussi en marge les données qui sont récupérées au cours du séminaire. Par ailleurs, de façon peut-être plus anecdotique, mais qui montre bien cette activité ininterrompue et l'absence de toute passivité dans la lecture ou dans l'écoute, sur les feuilles de notation rédigées durant les séminaires, on voit surgir des notations rapides, par exemple, relire Marc Bloch, La société féodale, ou, sur une autre feuille, relire Voltaire. Relire Voltaire, je n'insiste pas au plaisir de vous dire que c'est lors d'un séminaire où Keith Baker présente un exposé. On y reconnaît aussi, je dirais, dans ces moments-là, furtifs, que l'on arrive à saisir miraculeusement presque, ce qui s'apparente beaucoup à des tests de formules qui pourront peut-être être remployés, là encore, plus tard, ailleurs, dans des articles, des ouvrages, voire des conférences. Par exemple, celle-ci, abrégée, « La Révolution française a tué la monarchie, la Révolution anglaise l'a transformée ». Ou plus loin, « Attention à ne pas réifier les principes de classification sociale, qui sont des outils conceptuels. La bourgeoisie existe, mais elle n'est pas formée toujours des mêmes bourgeois, des mêmes familles ». On pourrait, là encore, multiplier les exemples qui témoignent, qui attestent cette activité ininterrompue. Les lectures, on le voit, se présentent aussi comme autant de moments d'élaboration d'une pensée. Furet y appuie ses thèses, soit en y puisant des arguments en sa faveur, soit en fortifiant ses thèses contre elle. Être attentif à cette documentation permet de mettre fin à une conception, je crois, trop scolaire, paresseuse de l'histoire des idées, qui définit des écoles de pensée ou des filiations univoques, très souvent mises en œuvre par les historiens des disciplines ou de prétendus courants de pensée. Ainsi ai-je signalé, presque sous forme de boutade tout à l'heure, que celui que, pour des raisons d'abord politiques, il a été convenu d'opposer à Pierre Bourdieu, savait rendre hommage à ce dernier, en tout cas à un moment de sa vie, où il est vrai, ni l'un ni l'autre, ne représentaient encore les deux figures adverses qu'ils finirent par incarner à la fin du XXe siècle. Mais on pourrait faire des remarques analogues, par exemple, faites à propos de la lecture furetienne de Schumpeter ou celle de Norbert Elias. Et en effet, nous disposons d'une note critique manuscrite puis dactylographiée consacrée à la civilisation des mœurs qui venait d'être traduite en français, je crois, en 1973. Et voilà ce qu'en note Furet. Le livre est remarquable, dit Furet, donc précocement, mais n'en comporte pas moins à ses yeux une limite, je le cite, « Norbert Elias s'en tient à la vieille idée selon laquelle la noblesse française, paupérisée par la hausse des prix du XVIe siècle, se jette dans les bras du roi tyran pour sauver à ce qui est sauvé de sa splendeur passée. C'est simple, dit Furet, beaucoup trop simple, ne serait-ce que parce que la noblesse du XVIIe siècle est très largement composée de familles à la promotion récente. Mais le plus intéressant de cette critique, qui va alimenter une recension dans les colonnes du Nouvel Observateur, alors même que ce travail a vraisemblablement, si j'en crois le dossier dans lequel il figure, alimenté une intervention de séminaire. Cette note critique est agrégée à une autre note critique qui le tourne là vers un ouvrage d'un statut tout à fait différent de l'historienne Claude Dulon, par ailleurs spécialiste du XVIIe siècle, et qui s'était engagé à publier un ouvrage sur l'Élysée dans la série « La vie quotidienne ». Et c'est un parallèle audacieux de publiciste, pourrait-on dire, que s'engage là François Furet en comparant les deux vies de cour. J'en viens à ma conclusion, je crois qu'il est temps. Ça va ? Bon. Alors, les exemples de cette encre à même donc d'alimenter un programme qui, évidemment, se montre, comme le font de nombreux collègues ici, sensibles à ces traces écrites, qui allie donc une attention portée à la matérialité et à la forme de l'écriture en même temps qu'à son indissociable contenu. Tous ces exemples, on pourrait les accumuler. Je crois, s'il s'agit, comme nous y invitait Perrine à l'instant, de tester en quelque sorte la pertinence d'une telle approche, que oui, il s'agit bien pour François Furet d'une entrée pertinente, même s'il serait naturellement pernicieux de réduire l'œuvre de l'historien à ces fragments qui en constituent néanmoins comme les moellons. Il convient d'ailleurs, pour finir, par là que j'ai commencé, de s'interroger sur le rôle de ces archives, une réflexion peut-être un peu triviale, mais qui mérite d'être ici replacée sur la table, sur ce rôle de les archives et de l'existence de ces prétendus fonds d'archives dans la construction de ce type d'analyse. Un livre, comme nous le savons, ou même un ensemble de livres, ne définissent pas à eux seuls le périmètre d'une œuvre, et donc c'est de tout cela qu'il faut parler en même temps, et de même que le fonds d'archives ne constitue en rien la totalité de ce qui serait caché d'une œuvre. Bien évidemment, il y a là une illusion historiciste qui rassure souvent les historiens se légitimant par l'acte, je cite, d'aller aux archives, mais dont il faut naturellement se défier. Alors, pour éviter de s'enfermer dans ce cercle rassurant des archives, il faut naturellement maintenir ce va-et-vient entre les deux. Il est vrai que certains individus y encouragent parfois à laisser des archives derrière eux et donc à nous piéger d'une certaine façon. Rien de tel dans le cas de François Furet, dont la disparition brutale a interdit tout classement en tume de papier d'où jaillirait une prétendue lumière d'une existence. Raison de plus, peut-être, je crois, pour s'arrêter sur ce qui reste de ce classement archivistique, pensé selon les nécessités imposées par une œuvre en construction, et interrompu, et non avec le souci d'inventer, d'inventorier une, et, oui, d'inventorier et d'inventer d'ailleurs en même temps une postérité. On pourra même, d'ailleurs, dans ses archives, y plonger avec un peu plus de confiance qu'en d'autres, fabriquer, car les archives, nous le savons, sont parfois fabriquées par le producteur, avec la conscience aiguë de leur destinée posthume, mais sans pour autant déposer là les armes de la critique historique. Je vous remercie. Thank you.